ensemble, ici, Radio Livre.
Radio Livre, la radio des initiatives.
Bonjour, ici Radio Livre, nous sommes en direct du marché de producteurs des piles. Il est 18h30, le stand est magnifique et nous sommes réunis pour parler nourriture, alimentation bio, circuit court. Nous avons avec nous la MAP, le local et les Stanco, la Bias Paysanne et le Carrefour des Habitants. Je vais vous proposer dans un premier temps de vous présenter. Alors, vous présentez comme vous le souhaitez, nom, prénom, ou alors par une citation, un mot, un proverbe qui vous ressemble. Voilà, Olivier.
Merci, bonjour Radio Buvette, merci à Radio Olive. Olivier, donc, je suis de l'association Carrefour des Habitants d'Union C, basée à Nyons. Voilà. Bonsoir à tous.
Bonjour, je m'appelle Saïf Hassan, je représente la MAP de Nyons sur le territoire. Et quoi dire, un proverbe ou deux mots, on va dire logique équitable et, et écologiquement saine, par exemple.
Bonsoir, Franck-Olivier Trombetta, donc je suis le maraîcher de la MAP de Nyons depuis 6 ans et j'habite à Grillon.
Bonsoir, Franck Darret, je représente l'Estanco et le local. Je suis paysan et à Bourdeaux, dans la Drôme, pas très loin. Voilà. Je dirais paysan d'aujourd'hui avec des techniques un petit peu anciennes.
Donc Gérard Tellen, moi je représente la Bias Paysanne. Je dirais que je suis un paysan en bio. Sur une petite structure fermière, voilà.
Ok, et donc aujourd'hui, là, si on vous a invité, c'est aussi parce que vous êtes tous plus ou moins engagés dans des dynamiques collectives, c'est-à-dire que vous êtes producteur ou animateur, mais, ou président d'association, mais à chaque fois, vous essayez de vous mettre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi choisir de travailler avec d'autres et de se regrouper?
Moi, je dirais que c'est indispensable de travailler avec d'autres personnes parce que se retrouver tout seul, isolé sur une ferme, on ne peut pas tout gérer. Enfin, personnellement, je travaille tout seul et même si je n'ai pas une grosse surface, ça représente quand même une charge importante de travail. Et sans le concours des autres, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Donc, c'est bien de travailler à plusieurs et notamment par l'intermédiaire d'un point de vente collectif.
C'est vrai que ça permet aussi d'ouvrir des portes quand on a des soucis sur la ferme. On peut prendre quelques conseils auprès des anciens du magasin ou trouver un coup de main sur un moment un peu difficile. Donc c'est vrai que le fait d'être partie prenante d'un magasin de producteurs, moi j'y trouve beaucoup plus mon compte que là sur un marché. voilà, j'ai fait ce choix et aujourd'hui je ne le regrette vraiment pas. Voilà, le groupe.
Pour la MAP, pardon, on est dans une dynamique associative. Alors, si on doit résumer assez rapidement, c'est l'idée, en fait, de démocratiser les accès à une alimentation saine et, je ne vais pas dire même pas biologique, mais au moins locale. Et dans un second temps, c'est réduire la distance qui existe entre le consommateur et le paysan. Voilà, globalement, les deux gros objectifs qu'on vise.
Donc, vous venez de plusieurs structures différentes. Moi, je ne connais pas forcément les distinctions entre ce que c'est vraiment une AMAP, ce que c'est un magasin de producteurs. C'est quoi ce qui vous distingue les uns des autres? Et puis, si vous êtes en concurrence les uns avec les autres, ou est-ce que vous êtes plutôt en complémentarité? Voilà, c'est ça ma question.
Alors, en ce qui concerne la Bias Paysanne, c'est un point de vente collectif de producteurs. Donc c'est une structure qui a été créée il y a 10 ans de ça. Moi je dirais que le gros avantage d'un point de vente collectif, c'est justement que ça évite de faire des marchés, de se déplacer tous les jours de la semaine pour déballer, remballer, ça demande beaucoup de temps et c'est très fatigant. Le point de vente permet de rencontrer les clients, d'expliquer la façon dont on travaille, les problématiques qu'on rencontre. Ça permet aussi aux gens de redécouvrir la saisonnalité des produits, de redécouvrir aussi les produits eux-mêmes, à savoir que une carotte, si elle a de la terre, c'est parce qu'elle pousse dans la terre justement, et parce qu'elle peut être tordue, il peut y avoir plein de choses comme ça. Une pomme, elle n'est pas forcément bien ronde, bien rouge, très grosse, elle peut aussi avoir des défauts, elle peut aussi être piquée. tout ça, ça permet d'être expliqué dans un point de vente collectif, dans cette démarche-là, quoi. Et en plus, ça permet de vraiment mutualiser les moyens, quoi. Par exemple, d'avoir accès à une chambre froide, d'avoir accès aux compétences des autres, de se donner des coups de main en cas de difficulté. On a créé, par exemple, un atelier de poules pondeuses comme ça, on se donne des coups de main. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous dans ces contextes-là, quoi.
Je vais pouvoir pas ajouter grand-chose. Tu as bien résumé ce qu'est un point de vente collectif. Et c'est vrai que moi, j'insiste peut-être sur le côté aussi social. C'est que tout à l'heure, je disais que voilà, dans les moments un peu difficiles, et c'est facile de vendre ces produits. Après, c'est difficile de les vendre tous les jours, comme tu disais. C'est bien d'avoir un magasin où c'est les collègues qui vendent tes produits. Mais c'est vrai qu'au niveau social, c'est vraiment très important. On peut s'isoler par la quantité de travail qu'on peut avoir sur nos petites fermes et de se retrouver une fois par mois. Je pense que c'est pareil pour la Bias. Voilà, au local et à l'Estanco, on se retrouve une fois par mois. On mange le bout de grès, on discute du magasin, et puis on peut après en aparté discuter des choses qui vont bien et puis des choses qui vont moins bien. Et là, le côté social d'un groupe est très important. Voilà.
Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on est assez dans une démarche complémentaire, parce que nombreux sont les gens qui viennent chercher un panier bio à faire leurs courses à la Bias Paysanne ou dans d'autres points de vente, au pile ou ailleurs. Et la seule différence, c'est que sur la MAP, si on vient à la définition, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on a des paysans qui travaillent sur la MAP et qui livrent, j'imagine, la Bias Paysanne ou d'autres structures. On est vraiment dans l'idée de la complémentarité. Après, c'est vrai que sur la MAP, c'est une association de bénévoles. Donc nous, on fait juste l'interface entre les habitants et les paysans du secteur, quoi, à notre échelle, parce qu'on n'a qu'une trentaine d'adhérents à peu près.
Pour revenir sur l'histoire de la complémentarité, moi, je dis, il n'y a pas de concurrence entre les points de vente collectifs, entre les AMAP, et je veux dire, même, il n'y en a pas assez, quoi. Il faudrait évidemment que tout ça se développe encore plus, parce que plus on sera de petits paysans à pratiquer cette agriculture-là, meilleures les choses pourront aller, quoi.
Parce que c'est vrai qu'en vous entendant parler, c'est à la fois une initiative un peu de consommateurs, des consommateurs qui se mobilisent pour accéder à une alimentation plus saine et des produits de qualité autour de chez eux, et chez vous c'est plutôt des producteurs qui décident de se réunir parce qu'ils sont face à des problématiques communes, et en fait on voit qu'entre les deux il y a vraiment le souci de la convivialité. Et quand on entend le mot paysan, donc vous c'est association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et vous définissez comme paysan, et est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce terme de paysan? Vous, c'est quelque chose que vous sentez qui vous définit vraiment dans ce que vous faites tous les jours?
Ben, personnellement, c'est un mot qui me tient à cœur, quoi, parce que pour moi, un paysan, c'est quelqu'un qui est connecté tous les jours, au quotidien, avec la terre. C'est travailler dans le respect de l'environnement, des sols. Ça veut dire aussi tout ce qui entoure aussi le sol, c'est-à-dire les haies, ça veut dire la préservation de la flore et de la faune sauvage. Bon, là, je mettrai un petit bémol pour ce qui concerne les sangliers, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà.
La faune sauvage, moi qui suis berger, je dirais le loup. Alors je ne suis pas pour l'éradication, hein, du tout, mais bon, voilà, qu'on puisse se défendre aisément et qu'on lui fasse un peu peur. Voilà, puisqu'en 3 semaines, 3 attaques, ça fait un peu beaucoup, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est important en tant que paysan, moi je fais une différence entre le paysan et l'agriculteur. Voilà, j'associe plus l'agriculteur à la bosse, on va dire. Et le paysan a nos petites fermes où on a un tracteur, on doit atteler, dételer 10 fois par jour pour récolter, pour voilà. Et c'est vrai que le respect du vivant, tu parlais du sol, enfin voilà, c'est tout un ensemble. Se respecter aussi soi-même, respecter les gens qui nous entourent, nos clients, voilà. Si on a le respect de tout ça, on arrive à avoir des produits de qualité et les gens reviennent nous voir dans nos magasins de producteurs.
Pour ma part, moi, le mot paysan me va bien parce que exploitant agricole, ça me va pas. agriculteur, ça reste plutôt technicien. Donc paysan, pour moi, c'est bien. Et puis, ça, pour moi, il y a la notion géographique, quoi, d'être vraiment inséré dans un pays, dans une région, dans un canton, dans un village, dans une vallée. Voilà, pour moi, un paysan, c'est vraiment quelqu'un qui vit avec ce qu'il a autour de lui et qui fait en fonction, quoi, en fonction de la clientèle qu'il peut avoir, en fonction des terres qu'il peut avoir, de l'eau qu'il a à disposition ou pas, de son climat, etc. Donc, une notion d'adaptation, quoi, d'être vraiment les pieds sur terre et on s'adapte à ce qu'on a et ce qu'il y a autour de nous.
Et toi, Olivier, en tant que non-producteur et non-paysan, t'aurais fait une distinction entre les deux termes ?
Oui, j'aurais fait une distinction. Pour moi, paysan, c'est très fort, hein, la revendication de ce mot-là. Effectivement, il y a le lien avec la terre, avec le terroir, avec le pays, le respect du vivant, effectivement, et les interactions entre tout être vivant. Et dans le vivant, je mets aussi ce qui est végétal, animal, humain. Donc c'est, pour moi, c'est très très important que des personnes, que des collectifs revendiquent et expliquent ce terme de paysan et tout ce qui va avec. Oui, c'est très très important. Même si moi, je ne suis pas du tout paysan, même si j'ai un petit jardin, mais voilà. Mais c'est, voilà, je suis paysan, je suis un tout petit paysan à mon échelle.
Cette distinction entre deux termes, on l'a pas faite par hasard, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé à préparer un peu cette animation radio, on est tombé sur deux termes qui revenaient régulièrement, c'est la FNSEA et la Confédération Paysanne. Est-ce que... Question peut-être un petit peu difficile, je sais pas. On s'est rendu compte qu'en fait la FNSEA, c'est pour mémoire, c'est le syndicat agricole qui représente un petit peu les agriculteurs et qui est peut-être plus du côté agriculteur pour le coup, et la Confédération paysanne semble être plus côté paysan, donc pas défendre la même vision de l'agriculture. Et du coup, on se demandait ce que vous en pensiez, si ces termes-là, ça vous parle, et ce que vous auriez à en dire, pour peut-être éclaircir déjà un petit peu ce que c'est pour les non-initiés.
Alors moi, je ne suis pas syndiqué, hein, mais c'est vrai que je me sens, étant paysan, je me sens plus proche des idées défendues par la Confédération paysanne. La FNSEA, c'est le syndicat majoritaire en France, chez 80% des agriculteurs. La Confédération paysanne, elle défend son bout de gras, elle défend les petits, elle défend ceux qui sont pas, qui rentrent pas dans les normes, qui sont pas dans les clous, qui voilà. Donc ça me plaît, quoi. Ça me plaît qu'il y ait un syndicat qui fasse plutôt ce travail. Et j'aime bien leurs idées, j'aime bien leur magazine, hein, auquel je suis abonné d'ailleurs et que je lis toujours avec plaisir.
C'est quoi le titre du magazine ?
Campagne solidaire, ça s'appelle. Voilà.
Oui, donc, c'est vrai que la FNSEA, ça représente vraiment le syndicat majoritaire en France depuis des années et des années. Et moi, je ne me sens pas du tout proche de ce syndicat-là, même s'ils ont fait des efforts, quand même, il faut le reconnaître, parce qu'ils ont quand même des sections bio, paraît-il, en leur sein. Mais quand même, quoi, ça reste le chantre de l'agriculture productiviste, et ça ne nous va pas du tout, quoi. D'autre part, il y aurait vraiment, je ne sais pas comment il faudrait faire pour réformer les élections de la Chambre d'agriculture, parce que, par exemple dans la Drôme, en termes de nombre de voix, on est beaucoup plus nombreux à avoir voté pour la Confédération paysanne, mais il se trouve que, vu le mode de scrutin qui est adopté, on ne peut pas avoir la majorité, on l'aura jamais, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, à ce niveau-là. Mais bon, tant que ça reste comme ça, on ne pourra rien changer. D'où l'intérêt de créer des petites structures locales de plus en plus nombreuses pour pouvoir revendiquer ce qu'on a revendiqué.
Alors moi non plus, hein, je ne suis pas syndiqué. Je suis paysan, donc plutôt de la Confédération paysanne. Mais il est vrai que la FNSEA essaye de redorer un peu son blason. Et il ne faut pas que... que nos clients se trompent, en fait. Comme certains grands politiques ont manœuvré pour être élus récemment, il ne faudrait pas que, voilà, qu'on se trompe sur ce que veulent vraiment faire les FNSEA en modifiant le cahier des charges pour le bio, ou voilà, auparavant on était à 4 poules pondeuses, on est passé à 6 pour que le conventionnel puisse y aller. Enfin, après voilà, il y a le bio, le bio paysan, et les paysans souvent sont même pas estampillés bio, parce que aujourd'hui, vu le cahier des charges du bio, eh ben eux ils sont encore plus bio que bio, voilà. Et puis là, voilà, ce qui est important, je pense, dans nos magasins, c'est d'inviter aussi nos clients à venir sur nos fermes pour leur montrer comment on travaille. Parce que parfois, bah voilà, y a pas la petite feuille, il n'y a pas le logo AB, et on travaille certainement mieux que certains qui ont le logo AB. Voilà, moi, je connais dans ma région, dans ma vallée, des poulaillers de 18 000 poules pondeuses en bio, voilà, avec le parcours réglementaire, avec tout ça. Et puis à côté de ça, ben derrière nous, on a une productrice là à la 200 poules, et ça, c'est voilà, ça c'est une paysanne, ça c'est quelqu'un qui nous fait de bons œufs dans nos deux magasins, et qui n'ont rien à voir avec des œufs bio qui sont 18 000 dans un bâtiment, voilà.
Alors, moi, je ne connais pas ni la FNSEA ni la Confédération, puisque je ne suis pas paysan. Mais justement, j'aimerais soulever l'importance de ce genre de manifestation ou de foire où vous pouvez être en contact, ou les magasins de producteurs ou les AMAP, où là, vous êtes en contact avec les consommateurs. Et donc, en les informant, en leur expliquant comment vous travaillez, et puis aussi la complexité du monde agricole, les questions, avant on parlait de quotas, etc., etc., les droits à produire et compagnie, toute la complexité, tous les contrôles que vous vivez au quotidien. Les agriculteurs, vous êtes une profession, les paysans, vous êtes une profession hyper contrôlée, hyper fliquée. Et c'est parce que c'est l'administration qui, sous des pressions, etc., petit à petit, a mis en place ces contrôles et autres. Et donc, en informant les consommateurs au plus près, bah, dans les foires, dans les salons, dans les marchés de producteurs, eh bien, vous redonnez le pouvoir aux consommateurs, et qui pourront petit à petit, alors c'est vrai que le travail va être énorme, mais petit à petit, eh bien, ils vont pouvoir acheter en connaissance de cause et se détourner de certaines filières qui peuvent aussi poser problème à la fois à l'agriculture et puis aussi en termes de santé et autres.
Et ben, en parlant des problèmes avec précisément la labellisation et puis le manque de reconnaissance de certaines petites exploitations qui travaillent en bio et tout ça, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter un petit peu les réactions de producteurs qu'on avait à interviewer sur ces questions-là du bio et de toujours plus de bio, oui ou non, et de voir un peu leurs réactions et de voir ce que vous aurez à en dire, parce que eux aussi, ça les a fait réagir.
Au lieu de penser uniquement bio, il faut penser agriculture, il faut penser agriculture locale, familiale, paysanne. Et là, on arrivera à nourrir les gens proprement, à des prix décents pour tout le monde, ouais. Tant pour les gens que pour les producteurs. Ça va au-delà du bio. C'est une question d'éthique et c'est une question sociétale. C'est-à-dire, c'est une question de conscience pour nos... Il y a beaucoup de générations d'avant nous qui se sont fait beaucoup d'argent en mettant des produits partout et en vendant aux coopératives. Ça, il faut que ça change. Nous, on est là pour ça, pour que ça change. Nouvelle génération. Donc, voilà. Yes. Jeunesse consciente. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'installe en bio et qu'on fait que du bio, qu'on va au-delà du bio. On ne met pas de soufre, pas de cuivre qui sont autorisés en bio. Et je le dis, c'est autorisé en bio et ce sont des métaux lourds. Donc, nous, on va au-delà. On met des eaux florales et des purins et on refuse tout ce qui est traitement à base de chimie ou de pseudo-chimie. Et je rétorque aux gens qui me diront, mais le soufre et le cuivre, c'est naturel. Je leur dirai que l'arsenic, c'est naturel, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'utilise non plus. Donc, faut avoir un petit peu de discernement dans les choses. On est labellisé, bien sûr, parce que c'est pas la panacée, mais s'il y a un truc, au moins, il faut le défendre.
Moi, je travaille en bio, et par contre, je peux pas me permettre de payer la conversion, parce que c'est trop cher.
D'accord. Je m'installe, passer du ce qu'on appelle le conventionnel,
ouais,
avec la pastille bio, quoi. Donc je travaille en bio, je traite mes bêtes en bio, j'achète, okay, en bio, mais par contre je peux pas me payer la conversion parce que ça me coûte trop cher. Et puis je reçois aussi ce qui me fait chier, franchement, ouais, c'est de payer pour travailler proprement. Ouais. Après bio, ça veut dire quoi, franchement? Combien il y en a qui, par exemple, regardent les élevages de poules intensives? Tu peux avoir des poules élevées en intensif, mais du moment qu'elles bouffent bio, tes œufs sont bio. Alors que toi, moi, j'élève mes poules en plein air, mais j'ai pas la pastille bio, et pourtant, je suis plus bio que les poules qui sont élevées en batterie, et qui ont le label bio. Donc je pense que sur le label bio, il y a encore pas mal de boulot à faire. À mon avis, hein. J'aimerais avoir mon label, pourquoi? Pour faire voir à tout le monde, franchement, que je peux travailler proprement, que je travaille proprement. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, travailler proprement, ça coûte très cher. Voilà.
Des réactions?
Concernant la dernière intervention, il est vrai que travailler proprement, ça coûte très cher. Et la petite anecdote, j'ai mon contrôleur qui n'a pas bougé pendant 4 ans de ma cuisine. Voilà. Il n'a jamais été sur les terres, il n'a jamais fait aucun prélèvement de sol, ni de prélèvement de céréales. Voilà. Et je lui disais, bah voilà, la parcelle elle est là, et voilà, il marquait tout sur son ordinateur, c'était bien inscrit, et après je recevais mon certificat. Voilà, alors si j'avais été quelqu'un de malhonnête, eh ben j'aurais quand même eu mon certificat. Voilà, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour que la personne commence à se déplacer. Mais je n'ai toujours pas de prélèvement de mes céréales, voilà, parce que je fais du petit épeautre, j'ai pas de prélèvement de ma farine, parce que la farine est faite par un façonnier. Voilà, je transforme mes agneaux en terrine. Bon, là, c'est contrôlé, mais est-ce qu'il y a des prélèvements? En tout cas, je n'ai pas été informé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai le label, c'est marqué dessus. Ça donne une confiance au client, mais est-ce que tous ceux qui ont le label ont la même éthique que moi? Je l'espère fortement, mais je pense que dans le lot, il y a toujours des brebis galeuses. Et malheureusement, ces gens-là vont un jour faire de l'ombre à tous ceux qui travaillent proprement. Voilà, j'espère que ça sera le plus tard possible. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait pas uniquement deux certificateurs, parce qu'aujourd'hui, on n'a que deux certificateurs qui sont reconnus. Voilà, je ne vais pas les nommer parce que il n'y a pas besoin, il n'y en a que deux, hein, tout le monde les connaît. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, d'autres gens qui ont des labels comme Nature et Progrès, et ben, ces gens-là ne permettent pas la certification de nos produits. Voilà. C'est un label en plus. Voilà. Moi, sur ma petite ferme, hein, j'ai 150 brebis, je fais un petit peu de petit épeautre, je paye presque 1000 euros par an pour la certification. C'est en gros 2 mois de mon salaire. Voilà.
Alors, tu émets un doute sur certains paysans bio. Par contre, ceux qui sont conventionnels, là, on est sûr à 100% que c'est de l'agriculture chimique. Là, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Et eux ne payent pas.
Donc, on peut l'appeler, la rebaptiser agriculture chimique, alors.
Ah, mais ça serait plus cohérent de les appeler, voilà, d'avoir un label agriculture chimique
avec et un label Ron Poulenc, chimique, ça, le label Ron Poulenc.
Voilà, exactement. Okay. Mais on est encore loin d'y arriver à ce label.
Pour revenir à cette histoire de contrôle bio, bon, moi, j'avoue que j'ai peut-être une contrôleuse un peu plus sérieuse que... qui vient chez moi, mais effectivement, c'est toujours possible de frauder, mais de toute façon, des fraudeurs, il y en aura partout, il y en aura toujours, mais comment il faut faire pour garantir un minimum aux consommateurs sans qu'il y ait un cahier des charges à respecter, sans qu'il y ait des contrôles, sans qu'il y ait des normes, ça, je vois pas bien. Après, moi, je suis pas du tout un intégriste du bio-labellisé. Moi, ça m'intéresse que les gens ils travaillent proprement, qu'ils travaillent pas en chimie, et puis après, le reste, mais c'est pas grave, quoi. Ceci dit, pour revenir à la personne qui ne pouvait pas se payer une certification bio, le fait d'être en bio, ça vaut quand même des droits, des crédits d'impôt qui remboursent largement le coût de la certification en bio, même si, comme tu disais, c'est très très cher et c'est effectivement un mois de salaire, quoi, environ.
Donc concernant le bio, moi je suis venu à l'agriculture par le bio, donc je ne connais que cette agriculture-là. L'autre, je l'ignore. Il faut quand même reconnaître que c'est la seule agriculture qui est certifiée, dont on est sûr officiellement, voilà, parce qu'il y a un label, parce qu'il y a des contrôles. Quoi qu'on en dise, les contrôles, bah, ils sont ce qu'ils sont. C'est vrai qu'une fois par an, ça paraît peu. Bon, moi aussi, j'ai des contrôleurs qui sont plutôt sérieux, bien qu'ils changent quasiment tous les ans. En général, c'est plutôt des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs, qui font ce boulot-là pendant 3-4 ans parce que personne ne veut le faire. Ils sont très mal payés. C'est vraiment des boulots. C'est un boulot difficile, hein, un contrôleur. Hein. Donc, le principe de la vente directe, c'est justement de repointer une relation entre le consommateur et le paysan, quoi. Donc, je dirais que la certification, elle est nécessaire si vous vendez dans des circuits longs, si vous ne voyez pas vos clients au bout du chemin commercial. Là, ça me paraît nécessaire. Maintenant, si c'est pour vendre dans un point de vente collectif, si c'est pour vendre dans une AMAP, moi, je trouve que ça paraît moins nécessaire parce qu'il y a une confiance qui se crée. Sur l'AMAP, par exemple, régulièrement, on essaye de faire au moins une fois par an une distribution à la ferme. Donc, les gens, ils viennent chez vous, ils voient vos cultures, ils voient comment vous travaillez. Donc, ils se font aussi une opinion, quoi. Alors, ce n'est pas des professionnels de l'agriculture, ils ne peuvent peut-être pas tout voir, mais ils peuvent se faire quand même une opinion. Je pense que peut-être dans les points de vente collectifs, c'est la même chose. Voilà, il y a ce lien de confiance qui me paraît au moins aussi important que le label bio, quoi. S'il y a les deux, c'est super. Mais s'il n'y en a qu'un à tout choisir, je pense que ça serait mieux d'avoir le contact avec les clients et la possibilité pour eux de voir comment on travaille pour qu'ils se fassent leur propre opinion plutôt que ce soit un certificateur qu'on paye, c'est vrai, qu'on paye assez cher, mais voilà, malheureusement, c'est le jeu aujourd'hui, quoi.
Et du coup, moi, ça me fait me poser la question, est-ce que vous, à la MAP, vous avez en quelque sorte des critères de sélection des producteurs qui vont intégrer le système de la MAP ?
Oui, ouais. Quelques critères. Bon, le premier critère, en fait, c'est la proximité. On travaille sur un territoire, donc il serait illogique d'aller chercher un maraîcher à plus de 50 km alors qu'il en existe à 10-15 km. Donc il y a déjà ce critère géographique. Et puis le second critère, en fait, sur la MAP de Nyons, on a choisi de travailler avec des agriculteurs certifiés en bio. Mais on aurait pu faire d'autres choix. On a eu la possibilité de le faire, donc on l'a fait. Et c'est vrai que sur ces problèmes de certification, on a un peu de chance sur les AMAP. Il y a un réseau régional autour. Donc ça nous permet d'envoyer un technicien avant d'intégrer un paysan, par exemple, d'envoyer un technicien chez lui qui fait une visite technique avec plusieurs AMAPiens. On fait le tour de la ferme. Le paysan peut nous expliquer les modes de production, les contraintes. On peut même émettre des avis. Parce que nous, en tant qu'AMAPiens, on n'a pas forcément la technicité pour le faire. Donc c'est vrai qu'on fait appel à une personne du réseau qui peut nous aider dans ces démarches-là. Mais c'est vrai que voilà, on a fait le choix du bio labellisé. On aurait pu faire d'autres choix sur le territoire. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de paysans en fait, qui travaillent en bio. Donc ça a été assez facile de le faire. Après, derrière tout ça, malgré tout, hein, si on creuse un peu avec nos adhérents, le critère de proximité prime. L'idée de pouvoir voir le producteur tous les lundis quand un adhérent vient amener son panier. D'ailleurs, il peut venir en râlant même. Pourquoi les carottes sont comme ça? Pourquoi il n'y a pas assez de tomates? Franco vous le dira un peu plus que moi. Pourquoi il y a trop de fenouil? Ça permet quand même en fait, d'instaurer l'idée que manger local, voilà, c'est pas non plus aussi aisé qu'on veut. On ne mange pas des tomates au mois de mai. On les mange au mois de juin ou au mois de juillet, au moment où elles sortent de terre. Donc c'est vrai que cette idée de proximité est vraiment ce qui prime en fait, sur le réseau AMAP, quoi.
Et ça doit être un peu pareil pour vous, j'imagine, magasin de producteurs. Vous n'avez pas de critères de certification. Est-ce que vous avez des critères de certification pour les producteurs ou est-ce que vous avez d'autres
Eh bien, nous, donc pour le local, comme là, pour les Stanco, c'est un petit peu différent, mais pour le local, avant de créer la structure, on s'est tous visités les uns les autres, tous ensemble. Voilà, tout le monde a visité toutes les fermes. C'est le meilleur moyen pour voir comment, puisqu'on a un œil un peu plus technique, de voir comment les autres collègues font. Et puis, ça permet aussi de pouvoir aussi parler des autres fermes aux clients quand on est de permanence au local. Là, au pile, c'est un petit peu différent. L'Estanco, c'est une réouverture. Voilà, donc les visites se feront en septembre après la saison. Voilà. Mais voilà, c'est important, c'est de savoir un peu comment tout le monde fonctionne. Et puis, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on le dit. Et puis, ça peut aussi aider certains paysans qui auront des difficultés à enlever des pratiques, on va dire, ancestrales que le grand-père faisait, que le père faisait. C'est vrai que, voilà, moi, je suis pas issu du monde agricole. Donc, pour moi, ça a été une évidence de passer de créer la ferme en bio il y a 6 ans. Voilà, et de, enfin, je me posais pas de questions. Voilà, pour certains, ils doivent s'en poser. Et le fait d'être en groupe et de se visiter, ça permet de faire modifier quelques pratiques et puis de montrer que, tiens, si tu utilises ça, des huiles essentielles, si tu fais un purin, ça va marcher aussi bien que si tu mets la poudre de perlimpinpin que ton grand-père mettait et qui l'a peut-être un peu empoisonné.
Au niveau de la BIAS, on est, je dirais, à 99% en bio labellisé. Mais au départ, à la création, c'était pas quelque chose qui était obligatoire. Bon, par contre, on exigeait que les gens travaillent de façon biologique, même s'ils n'étaient pas labellisés, quoi. Mais avec le temps, tout ça, c'est relativement lissé. Maintenant, on a quasiment plus que des producteurs en bio. Et comme vous, on fait des visites de ferme. Bon, après, voilà, ça, c'est des débats qui sont récurrents, je pense, au sein d'un point de vente collectif. Et on pourra en parler, mais on apprend la démocratie, à travailler ensemble, à échanger et compagnie, quoi.
À gérer tout ensemble la barque financière aussi, parce que c'est un engagement financier aussi, un point de vente collectif.
Oui, c'est un engagement financier. Nous, au départ, on a été obligé de faire un emprunt pour pouvoir s'installer, pour acheter des chambres froides, pour les fonds de roulement de début. Et c'est vrai que maintenant on est un peu sorti de cette histoire d'emprunt, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
Et après, chacun d'entre vous, là, vous parlez à chaque fois du contact entre le producteur et le consommateur. Et on a l'impression que c'est quelque chose auquel vous tenez tous assez, même plutôt beaucoup. Et moi, je me demandais, est-ce que vous vous considérez un peu comme des militants en ayant cette envie-là ? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose... de militant, d'engagé, que de vouloir recréer un lien entre un producteur et un consommateur.
Bon, peut-être pas militant pour nous, mais au moins citoyen, quoi. C'est vrai que l'idée de pouvoir acheter des tomates à 5 km et pas à 300 km sur des périodes de l'année, ça nous semble une idée normale et saine, mais c'est pas l'idée de tout le monde. Et c'est vrai que de pouvoir démocratiser cet accès à des produits locaux, bio, achetés à bon prix et de qualité... C'est pas anodin, c'est vrai que malgré tout, ou même ajouter jusqu'à 20% sur le prix pour avoir un produit qui a été qui a poussé à moins de 20 km de chez nous, c'est pas une idée si naturelle que ça pour tout le monde. Et c'est vrai que arriver tout doucement à faire prendre conscience à la population que c'est possible, c'est déjà un grand pas. Et je pense que toutes les structures autour de la table œuvrent aussi autour de ça.
Je vais rajouter quelque chose là-dessus sur la proximité, c'est que. Il y a la proximité, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un plus grand pouvoir avec leur porte-monnaie qu'avec leur bulletin de vote. Quand on achète en local, on renvoie l'argent qu'on a gagné en local et on dynamise le local. Et forcément, moi, quand je vends mes produits ici, je vais gagner un peu des sous, je vais racheter... peut-être quelque chose à un autre collègue, et ainsi de suite. Et les gens, comme ça, on relocalise la monnaie, quoi. Après, on peut parler de monnaie locale, etc. Mais dans un premier temps, si on achetait vraiment de plus en plus en local, on s'apercevrait qu'on va créer de l'emploi, il va y avoir un impact beaucoup plus... Un euro peut générer, comme l'effet papillon, peut générer des milliers d'euros. Voilà, ça c'est. Moi je le vois aujourd'hui. Cette année là, j'ai embauché pendant 6 mois une personne à mi-temps. Voilà, sur ma toute petite ferme, 150 brebis, 5 hectares de petites épeautres, un petit peu de lentilles. Mais voilà, en transformant tout, en vendant dans des magasins de producteurs où moi quand je n'y suis pas, mes produits sont vendus. Voilà. Et je pense que le consommateur a un grand pouvoir, mais dans son porte-monnaie et pas dans son bulletin de vote.
Je pense que quand on est paysan, qu'on fait le choix de la vente directe, c'est principalement l'aspect financier, bien sûr, hein, parce qu'au niveau du prix, eh ben, on est maître de son prix. Et ça nous permet en général de quand même mieux valoriser notre production. Mais moi, pour ma part, c'est aussi d'avoir un contact avec les consommateurs. Quoi. Ça me paraît important. Moi, je suis seul sur ma ferme, donc je suis seul voilà, du matin jusqu'au soir, hein, tout seul avec mes poules et mes légumes. Et de temps en temps, une fois par semaine ou deux fois par semaine, bah, de voir des gens et de voir des clients, de voir des consommateurs, de voir des gens qui s'intéressent à l'agriculture, au milieu paysan, à nos galères, à nos bonheurs, à nos joies, bah c'est un moment de partage. Quoi. Et ça, enfin, moi, pour moi, c'est une part importante quoi. Dans le choix que j'ai fait d'être dans une AMAP. Bon, je suis aussi sur un point de vente collectif, donc je connais les deux côtés.
Oui, moi je dirais même que c'est essentiel. Hein. Et tu parlais pas de militantisme pour l'AMAP, mais si, quand même, c'est du vrai militantisme. Il n'y a rien à dire. Quoi.
Oui, mais jusqu'où va le... Enfin, c'est quoi la différence entre un geste citoyen et un geste militant ? Enfin, après, on peut aller plus loin, mais...
Oui.
Vas-y, si tu veux.
Oui, mais les deux sont liés, de toute façon. Bah, oui. Et puis, de toute façon, au sein de nos points de vente collectifs, on a nos premiers clients. Hein.
Donc, il est les producteurs entre eux ?
Bien sûr.
Est-ce que vous vous définissez tous comme producteurs bio, en bio ? Enfin, pas bio côté reconnaissance institutionnelle, tout ça, mais bio plutôt avec l'esprit bio, quoi.
On est doublement bio, que ce soit par la démarche ou que ce soit par le label, on est tous en bio.
C'est quoi une démarche bio ?
Ah ben, une démarche bio, c'est si tu veux, c'est de travailler selon les principes d'agriculture biologique, mais sans être labellisé forcément, quoi. Voilà.
Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, la région a enlevé beaucoup de subventions à certaines associations qui soutiennent les petits agriculteurs, tout ça, pour finalement rendre cet argent à des grandes industries qui se disent bio. Et ce qu'on se demandait, c'est est-ce que vous êtes soutenu par la région ou est-ce que... Ou par le département. Et quel problème ça a pu vous amener, tout ça ?
Alors, là, j'ai tout le monde sort le micro. On a tous envie de parler d'un endroit où... je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé ce nom, mais ils appellent ça la chambre d'agriculture. Voilà, ce n'est pas une chambre. c'est un endroit où il n'y a que les mêmes personnes, voilà, qui sont principalement, comme le disait tout à l'heure mon collègue, des gens de la FNSEA. Voilà. Et en fait, notre président de région a enlevé ses financements à ces associations pour les reverser, notamment à la Chambre d'agriculture. Et après, la Chambre d'agriculture donne à qui est de leur côté. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, la FNSEA va avoir beaucoup d'argent. Et je pense que les gens qui ont plutôt tendance à être de la Confédération paysanne en auront beaucoup moins. Voilà. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Accueil Paysan. Voilà. Les subventions de la région sont passées de... 60 000 euros pour l'ensemble de tous les départements à zéro. Voilà, tout simplement. Voilà, on était à 60% de subvention sur Accueil Paysan qui fait de l'agrotourisme, comme aujourd'hui nos politiques aiment bien le dire. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a rien. Voilà. Et c'est du jour au lendemain. Hein. C'est pas, on nous prévient, on essaye de réduire petit à petit. Voilà. Il n'y a que sur la Drôme où là, on a eu une réduction. Légère, mais quand même sensible. Et mais voilà, on s'y prépare. Les paysans sont pleins de ressources et les paysans rebondissent toujours. Voilà.
Oui. Alors, il y a eu un âge d'or hein, sur les aides à la bio. Ça a duré. Moi, j'en ai bien profité quand je me suis installé. À l'époque, les 5 premières années, on était aidés de façon dégressive, mais bon, c'était quand même assez intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi je ne suis pas dans la Drôme, hein, je suis sur le Vaucluse, mais je ne sais pas si c'est national ou si c'est par département. Mais moi, il ne me reste plus qu'un le crédit d'impôt bio, hein, qui est quand même assez intéressant. Malgré tout, bon, je pense qu'on fait. Enfin, moi, je n'ai jamais fait d'agriculture pour avoir touché des aides. Hein, de toute façon, si vous ne faites pas de la grande culture, si vous faites pas, si vous rentrez pas dans des cadres prédéfinis par les aides européennes, vous ne risquez pas de toucher grand-chose. Donc moi, je touche le fruit de mon travail, c'est tout. Après, pour le bio, c'est vrai que ces aides, elles ont été intéressantes. Elles ont quand même permis de vachement développer la filière. Il y a eu énormément de conversions ces dernières années. Alors, c'est politique, hein, tout ça, c'est par à-coup. Il y a un moment, bah, voilà, allez, on décrète qu'il faut plus de producteurs bio. Alors, hop, on injecte un peu des aides. Et puis, bah, ça motive certains à franchir le pas. Puis après, bon, bah, il n'y a plus d'argent, on arrête. Bon, bah, là, ça va, c'est sûr que ça va freiner les ardeurs des conversions, sûrement. Et puis, peut-être que ça reviendra dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas. Mais bon, bon an, mal an, quand même, la filière, elle s'est bien développée. Après, le problème, c'est peut-être aussi pour les petites associations qui gravitent autour, hein, des associations comme les CIVAM ou comme les Agribio, enfin, les gens qui nous suivent, qui nous aident, qui nous donnent des conseils techniques ou commerciaux ou autres. Même la fédération des AMAP aussi, hein, je sais qu'ils sont, assez mal financièrement parce que bah, y a plus de crédit, quoi. Donc, je dirais que c'est aussi important pour toutes ces petites associations qui gravitent autour du monde paysan, qui nous aident de façon directe ou indirecte, ou des associations de consommateurs, etc., ou ceux qui sauvegardent les semences. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres associations qui aussi bénéficiaient de subventions et qui, à mon avis, sont tous aujourd'hui assez mal, quoi.
En fait, les aides au bio sont inversement proportionnelles à la teneur du discours, on va dire. Ce qui est dommage, quand même.
J'habite les Piles et je suis paysan à la retraite. Et je dis bien paysan, pas agriculteur. Tu as dit, on a plus de pouvoir dans le porte-monnaie qu'avec le bulletin de vote. Et tu as dit qu'avec le président de région qu'on a aujourd'hui, vous n'avez plus de subventions. Donc c'est le bulletin de vote qui a fait que vous ayez plus de subventions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je vais intervenir juste sur... sur une AMAP locale, en fait, la baisse des subventions n'a pas eu trop d'impact, je dirais, puisqu'on travaille sans subvention. Donc ça n'a pas été très compliqué. Par contre, ce qui m'embête toujours, hein, moi, c'est dans les AMAP, en fait, on a tout de suite un public qui est habitué à manger bio, qui viendra toujours, quelle que soit la situation. Par contre, tout le reste de la population, celle qu'on doit aller chercher, tout ce qu'on a à faire dans l'idée de la démocratisation des accès à des modes de production locaux et bio, ça pose un problème. Et ces structures en fait, régionales en fait, faisaient ce travail-là, ce travail de communication, la présence dans les médias, le travail de recherche et de développement. Ils en étaient à réfléchir, voire même à ce qu'on puisse payer directement par carte bleue sur leur site internet, les paniers. Donc tout ce développement va nous manquer à un moment. Et c'est avec ce développement-là qu'on pouvait aller capter des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés par ces démarches, quoi. Et c'est là où ça me pose un petit problème. Les AMAP continueront à exister, les gens continueront à manger bio, mais ça reste quand même un public en fait, déjà averti, déjà habitué, qui fera la démarche naturellement. Pour tout le reste, on a quand même besoin de ces attaches extérieures qui font un travail de fond.
Non, ce qui est grave au niveau des subventions, c'est au niveau de l'installation des jeunes qui voudraient s'installer en agriculture. Parce que actuellement, entre le foncier, le manque d'aide et compagnie, c'est vraiment très très compliqué de démarrer une activité si on n'a pas déjà des parents paysans ou si on n'est pas aidé d'autre part. Parce que là, je ne vois pas comment on peut faire actuellement, quoi. Mais Fatima, toi qui t'es installée il n'y a pas longtemps, tu veux peut-être réagir ?
Bonjour.
Bonjour Fatima.
Bonjour. Voilà, donc moi je suis éleveuse où j'ai des chèvres, une quarantaine de chèvres, et je transforme en fromage. Donc on est sur la commune de Saune, mais par Arpavon. Donc c'est vrai que moi je me suis installée sur une ferme déjà existante, puisque mon compagnon, donc c'est polyculture élevage, donc il a des abricots, lavandes et cerises. Donc c'est vrai que c'était moins compliqué de le faire sur une ferme déjà existante. Et en plus, il est vrai aussi que je n'ai pas démarré à 20 ans, j'avais beaucoup plus que ça. Donc, je n'ai pas demandé d'aide en fait, pour m'installer. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un petit budget pour commencer, quoi, pour se lancer. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est que les jeunes qui veulent s'installer, il y a une grosse, grosse pression quand même qui est mise, même si on leur donne des aides, c'est à condition de... Donc ça les met dans un état quand même, dans une sorte de guet-apens qui est parfois un peu dangereux et qui les met en difficulté parce qu'ils se mettent en difficulté d'investir et après plus pouvoir payer les factures. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir pour les jeunes qui démarrent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie vraiment de vivre autrement, de manger autrement aussi et manger mieux. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir et de les accompagner un peu dans ces démarches-là.
Super, merci. Du coup, moi, j'avais envie de passer... Une réaction, non ?
Non, je voulais, pour revenir à cette histoire de, d'installation, il y a aussi des aberrations, des exigences d'installation qui sont, pour moi, qui sont pas tenables quand on s'installe, quoi. À savoir qu'il faut avoir un minimum de revenus au bout de tant d'années. C'est des objectifs qui sont inatteignables, quoi. Je veux dire, quand on s'installe, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et du coup, le fait de fonctionner, bon, je défends le beau de gras du point de vente collectif, mais en point de vente collectif, c'est quand même une certaine sécurité de pouvoir vendre son produit directement d'entrée, quoi.
Super. Et du coup, toi, Hassan, tu parlais tout à l'heure de l'accessibilité en fait aux personnes qui ne sont pas les publics habituels de la MAP. Et du coup, moi, j'ai envie de passer la parole à Olivier. Nous, on t'avait invité aujourd'hui, c'était pour que tu nous parles un peu convivialité, cuisine et qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui n'ont pas accès à cette culture du bio et tout ce qui va avec.
Oui, alors. Au Carrefour des Habitants. Carrefour des Habitants, c'est une association qui est basée à Nyon. C'est, depuis quelques mois, on anime chaque mois des ateliers cuisine ouverts à tous. Alors, c'est des petits groupes, hein, puisqu'on a des locaux qui sont petits. Voilà, donc, c'est maximum 10 personnes. Et l'objectif de ces ateliers cuisine, c'est surtout la convivialité, de se retrouver, d'échanger. Notamment de discuter autour de la cuisine, autour des produits. Donc la convivialité, l'atelier cuisine, c'est un prétexte à la fois pour se retrouver, échanger des savoir-faire, échanger des recettes. On s'adresse à des personnes qui, effectivement, ont souvent des difficultés budgétaires. Bon, on dirait que c'est souvent le cas, hein, mais... Donc on va parler produits locaux, on va parler au travers de l'alimentation, on va parler budget, on va parler santé surtout, santé. Hein, parce que le lien avec tout ce qu'on se dit là autour de la table, des produits de qualité, des produits locaux, ben, y a complètement le lien avec l'environnement, le respect du vivant et la santé. Donc on aborde ces questions-là avec des personnes qui, par exemple, fréquentent l'épicerie solidaire. Ou des personnes qui voilà, sont à partir du 15 du mois ont un petit peu n'ont plus rien dans le frigo et vont passer à la banque alimentaire ou autre. Et donc ces ateliers cuisine, ils sont aussi dans un objectif de créer du lien. Voilà. Et puis à partir de la rentrée de septembre, on a le projet, on a appelé ça balade casse-croûte. Alors qu'est-ce que ça va être balade casse-croûte ? C'est d'aller à la rencontre des producteurs avec ces personnes qui fréquentent l'atelier, les ateliers cuisine. Voilà, donc sans doute une fois par mois, on organisera avec les idées des personnes fréquentant l'atelier ces balades casse-croûte, donc pour aller voir directement dans les exploitations au plus près, donc comment les produits sont fabriqués et produits.
Et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure de la proximité entre le producteur et le consommateur. Alors nous, on arrive au bout de ce qu'on avait envie de discuter avec vous. Donc si vous avez un dernier petit mot à nous dire, ou que vous avez envie de dire, parler de votre structure, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu le temps de vraiment le faire. Voilà, c'est libre à vous de le faire maintenant.
Oui, ouais. Je voulais juste rajouter une chose. Alors, on a parlé santé, environnement, respect du vivant. On parle aussi dans ces ateliers cuisine du gaspillage alimentaire, parce que c'est voilà, chacun chez soi, je ne sais plus les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais c'est des kilos et des kilos et des kilos de produits qui sont gaspillés. Donc on parle aussi budget et gaspillage alimentaire.
Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais parler d'une association dont je fais partie, qui s'appelle Helios, donc qui a été créée par des éleveurs pour les éleveurs. Donc moi, ce que je me rends compte, puisque c'est une reconversion, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de l'agriculture. Avant, je faisais autre chose. Et je découvre que finalement, dans nos fermes, on est très isolés. Et que parfois, on est... on passe par des grands moments de solitude et que c'est vraiment important de partager. Et c'est pour ça que cette association, elle existe aussi. Et on a l'occasion aussi de proposer des conférences, des cafés-rencontres, des formations, parce que ça permet vraiment que chaque personne de la ferme descende de la ferme, sorte de la ferme pour échanger et témoigner un peu de nos difficultés, de nos facilités, de ce qu'on a envie de faire, etc. Et c'est vrai que moi, je crois beaucoup au collectif, justement. Bon, il y a des choses qui ont été dites déjà ici, mais le fait d'être ensemble et de créer du lien, etc., moi, je pense qu'on peut mieux avancer. C'est moins compliqué. Voilà.
Moi, j'aimerais parler aussi, alors peut-être en prolongement de ce Radio Buvette, si vous souhaitez, si le thème de... des producteurs, des paysans et de l'alimentation continue. Il y a sur le territoire ici des exploitations qui ont pu être accompagnées par Terre de Liens. Donc ça peut être par exemple aussi des témoignages. Donc Terre de Liens, c'est une association qui permet, entre autres, c'est une foncière, de mobiliser des financements pour accompagner l'installation, entre autres hors cadre familial, hein, parce qu'on sait que c'est une grosse problématique. Aussi en milieu rural, je repasserai le micro tout à l'heure, et puis d'autres initiatives qui sont c'est un petit peu plus loin, mais ce qu'on appelle les espaces tests agricoles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace test agricole? C'est un dispositif qui est mis en place sur un territoire, entre autres avec les paysans, mais aussi avec les collectivités, les associations et autres, et Terre de Liens parfois, qui permettent, comme une pépinière d'entreprise, d'accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure agricole, jeunes ou moins jeunes, et de tester leur activité. Donc c'est une période, un espace test, c'est comme une pépinière agricole qui permet d'être accompagné pendant 3 ans et de tester concrètement, économiquement, son projet d'installation. Voilà. Et donc il y a un espace test pas très loin d'ici, juste à côté de Cré. Ça pourrait être un témoignage aussi lors d'un prochain Radio Buvette.
Bon, bah alors on va vous remercier très chaleureusement d'avoir tenu sous ce vent un petit peu frais. Et merci pour vos témoignages et d'être venu et d'avoir participé à ce super Radio Buvette. Voilà.
Merci à vous. Merci aussi à vous de faire passer tout ça dans les ondes.
Eh bien, on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à bientôt.
Ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.